Bonsoir à toutes et à tous et re-bienvenue dans cette expérimentation radiophonique du festival en direct du festival contemporain pour cette 13e édition. On est installé ce soir vendredi en plein cœur du festival et on vous invite à venir aujourd'hui, demain ou après-demain car il y aura une programmation de fou tout au long de ce week-end. C'est à Mantes-la-Ville, c'est au parc de la Vallée, c'est hyper accessible et aussi bien en déplacement que financièrement. Venez nous rejoindre, c'est là que ça se passe ce soir et sûrement les autres jours. Pour Radio Propulser cette émission, c'est toujours une équipe de choc que nous avons avec nous, à savoir l'ami Jean-Jean à l'organisation et c'est l'ami Vinci à la réalisation. C'est une courte celui-là, c'est très bien. Donc nous allons continuer nos échanges, nos discussions avec ceux qui font ce festival. Et j'ai avec moi JP et Florian de l'écho des pas perdus. Bonjour à vous. Alors, l'écho des pas perdus, c'est une association qui a ouvert récemment, je crois, c'est ça, ressourcerie.
Alors, c'est l'association, en fin de compte, qui porte un projet de ressourcerie, effectivement, et d'atelier chargé d'insertion. Et du coup, ça fait à peu près un an et demi qu'on a créé l'asso. Et moi, je suis cofondateur de cet asso et coordinateur du projet. Donc, on est implanté sur le territoire qui est juste à côté.
Sur Mantes-la-Ville.
Alors, on n'est pas sur Mantes-la-Ville, on est ici, c'est la communauté urbaine GPSO. Tu vois, nous, on est à côté, on est vraiment, on s'appelle la communauté de communes des parties de France, on est vraiment frontalier avec le 27, et c'est Bonnières, Freneuse, juste à côté. Un petit territoire un peu semi-rural, on va dire, mais où il n'y a pas encore de projet de ce type-là. Et,
voilà. Alors, justement, revenons sur des éléments importants, et on va commencer par ce qu'on appelle une ressourcerie. Qu'est-ce qu'une ressourcerie? À quoi ça sert? Comment ça fonctionne, une ressourcerie?
Alors, une ressourcerie, en fin de compte, ça pour objectif, on va dire, d'agir, en fin de compte, sur la réduction des déchets, d'une part, et de sensibiliser, notamment, en fin de compte, les populations à une consommation peut-être un peu plus responsable, et de faire attention, effectivement, à éviter de jeter, de remplir et d'augmenter ces tonnes de déchets qui sont super compliqués en fin de compte à traiter et qui sont nuisibles pour l'environnement et pour l'économie des territoires aussi.
Ça questionne la durée de vie d'un objet.
C'est simplement. Donc, du coup, voilà, il y a des tas d'actions qui peuvent être mises en place pour sensibiliser les gens. Effectivement, il y a des repères cafés que certaines personnes connaissent. Et puis, il y a effectivement de penser à notamment faire des dons ou appeler les ressourceries pour venir collecter à domicile des objets que les gens ont pu utiliser. Et nous, on en fera bon usage et enfin, on développera un projet autour de la ressourcerie qui sera. On fait aussi l'insertion, donc l'idée c'est aussi de créer des postes et de développer des actions de sensibilisation. Et voilà.
Justement, revenons sur le deuxième terme que je voulais éclaircir pour tout le monde, le chantier d'insertion.
Qu'est-ce qu'un chantier d'insertion et ça veut dire quoi finalement? Parce que c'est travailler avec des humains, mais avec quand même une particularité. Le chantier d'insertion, c'est quoi?
Effectivement, le truc c'est de mettre l'humain au centre de tout de toute manière, et après c'est effectivement de proposer à des personnes qui sont un peu éloignées de l'emploi pour diverses raisons, hein, qui peuvent être personnelles, de santé, ou qui peuvent, enfin voilà, il y a tout un tas de raisons qui peuvent faire qu'à un moment donné tu te retrouves depuis plusieurs années à pas bosser. Et voilà, nous, le chantier d'insertion, il va proposer enfin tout un accompagnement et vers une potentielle en fin de compte
C'est une employabilité après.
Voilà,
ça veut dire que dans un parcours personnel, professionnel, parfois, il y a des étapes à franchir. On évoquait effectivement le psychologique, on évoquait la langue aussi. Est-ce qu'on maîtrise la langue pour pouvoir travailler n'importe où ? Je ne parle pas que des personnes étrangères ou migrantes. Hein. En natif du coup, on peut aussi avoir des problématiques de langue. Des connaissances de base, je pense aux mathématiques. Me retrouver à une caisse, je ne sais où, si je ne dis pas
en métier.
C'est ça, la découverte également, des remises à niveau. Et puis aussi des questions logistiques. Est-ce que je peux me déplacer vers un emploi ?
Il y a le handicap
des mots aussi, des choses comme ça.
C'est exactement ça.
C'est des freins à l'employabilité.
C'est ça. Et donc, nous, on sert de passerelle, effectivement, à travers. Donc, on est associatif. Hein, donc, l'idée, c'est vraiment, comme tu le disais, de mettre l'humain au cœur de tout ça. Et donc, voilà, c'est de pouvoir accueillir des gens et de travailler là-dessus dans un premier temps, en fin de compte, dans un contexte plus humain. Et enfin, sans sortir des grands théorèmes sur le social et tout ça, on va vraiment travailler avec de l'humain et les accompagner de manière effectivement avec beaucoup de souplesse.
Justement, s'il y a le théorème du social, c'est bien qu'il y ait la mise en œuvre au bout d'un moment du social qui se fait sur le terrain et qui se fait en rapport humain. En général, c'est plutôt comme ça que ça marche mieux, dès qu'on parle d'humain et social, c'est le rapport humain qui compte. Aujourd'hui, l'écho n'est pas perdu, il y a une vraie question, se questionne, il apporte des éléments de réponse, bien entendu, on évoquait la durée de vie de l'objet, comment le réexploiter, comment voir une deuxième vie pour tel ou tel objet. Tu évoquais cette notion de valorisation de déchets aussi. Les déchets, c'est pas forcément un truc qu'on va brûler une fois qu'on l'a utilisé. Parfois, il y a une autre vie de l'objet ou de la matière même. Hein. Je pense au textile, par exemple, ou à d'autres éléments. Quand on lance un projet comme ça, j'imagine qu'on le fait pas tout seul. On a tout un réseau autour avec qui l'écho des pas perdus travaille. Comment ça fonctionne ? Quel est un peu le réseau ?
Alors, déjà, en fin de compte, le fait qu'on ait démarré sans association, donc la première chose, ça a été d'essayer de mobiliser, en fin de compte, les habitants, les gens, les sensibiliser un petit peu à ce projet. Et du coup, ça se passe avec beaucoup de bénévoles, en fin de compte, qui ont certains des compétences hein, particulières, donc qui sont très utiles au projet. Donc, tu parlais du textile, il y a des gens qui ont du temps libre. Alors, effectivement, nos bénévoles, c'est pour certains, en fin de compte, des gens qui sont à la retraite, des gens qui sont justement éloignés de l'emploi, qui sont disponibles et qui ont des compétences en fait. Et certains, en fin de compte, vont pouvoir apporter des choses. Il y en a qui sont compétences en menuiserie, il y en a qui sont dans le textile, en couture, il y en a qui vont être capables de démonter une machine à laver et de la remettre en état. Et donc l'idée, c'est de réunir ces gens-là, déjà dans un premier temps, de les faire se rencontrer, donc ça crée du lien social. Et en fin de compte, c'est quelque chose de très valorisant, en fin de compte, dans ces temps passés avec tous ces bénévoles. Ensuite, effectivement, on va chercher des partenaires un peu plus institutionnels. Donc, on a l'ADEME qui nous suit déjà, on a la région, on a les collectivités un peu locales. Et voilà, pour l'instant, on démarre. On a déjà le soutien de pas mal de partenaires
sur le
fond du projet, notamment pour les investissements à venir. Donc, on attend un bâtiment qui doit être construit par les collectivités et qui vient un peu de temps arriver. Mais voilà, on a quand même les collectivités qui certaines communes, en fin de compte, qui sont sensibles à notre projet et qui mettent à disposition des petits espaces qui ne sont pas suffisants parce qu'assez rapidement, en fin de compte,
on est au lieu de prendre sur le trottoir, limite.
Mais voilà,
c'est ça qui est terrible avec les associations, bien souvent, on leur donne les moyens d'une action et ils vont au-delà. Voilà, c'est plus fort qu'eux, quoi. Il faut qu'ils aillent au-delà de la mission initiale ou de l'objectif initial. C'est plutôt une bonne chose, hein, pour le coup, je disais ça en rigolant, mais c'est effectivement dans ces projets, notamment des contours à l'humain, des contours sociales, on ne peut pas dire « bah non, là, c'est 10 personnes qu'on va accueillir et c'est tout, quand la 11e, la 12e et la 13e arrivent, eh bien, en général, la porte reste ouverte et puis on fait comme on peut. » Ça, c'est souvent le cas. Ça permet de travailler aussi des questions autour de la transmission. Tu évoquais, ouais, JP, à l'instant, exactement, tu évoquais le fait que y a des gens qui savent faire la couture, de la menuiserie ou autre. Ça permet de mettre en commun les compétences. Il y a vraiment quelque chose autour de la transmission, finalement, de l'échange, et puis même d'une notion autour des générations, quoi. C'est là, tu évoquais des retraités, tout le monde n'est pas forcément retraité a priori, donc voilà, il y a du lien de génération, de la transmission, c'est finalement un peu la base de l'échange humain presque.
Bah, c'est ça, en fin de compte, c'est comme je le disais au début, en fin de compte, l'idée c'est vraiment de mettre l'humain au cœur du projet et voilà, de mettre sur un atelier de valorisation des gens effectivement qui ne sont pas des mêmes générations et qui ne sont pas forcément, qui ne se sont peut-être même pas croisés sur le territoire. Voilà, pour nous c'est super important et en fin de compte on a des retours à chaque fois très positifs en fin de compte et voilà, ça crée des liens et voilà, c'est aussi un espace de rencontre et de lien social. Ouais.
Surtout que a priori quand on est éloigné de l'emploi, vous parliez là de chantier d'insertion, quand on est éloigné de l'emploi, dans le monde dans lequel on vit, souvent on est éloigné de plein de relations sociales en fait. C'est-à-dire que l'emploi est un des vecteurs, on va dire, d'intégration dans la société. Quand on en est privé ou quand on ne peut pas y accéder, finalement il y a tout un tas de possibilités qui se referment par la même. Je pense qu'il est plus difficile d'avoir un réseau amical quand on n'a pas des liens professionnels, parce que souvent ça se fait aussi par ce biais-là. Et puis on perd une espèce de confiance d'aller vers l'autre. C'est tout l'intérêt d'un projet comme le projet que vous portez à travers la ressourcerie, mais à travers les projets de l'association, l'écho n'est pas perdu de manière générale.
Ouais. Ça, après, on n'a pas le seul. Hein. Il y a beaucoup de projets associatifs hein, qui misent et qui mettent ça comme enjeu un peu central. Mais c'est important effectivement, comme tu disais. C'est les verrous, ils se font sur tout un tas de d'aspects. Et voilà, l'outil professionnel, insertion professionnelle, en fin de compte, c'est qu'un outil, mais l'idée, c'est qu'effectivement, les gens recréent du réseau et qu'il y a un cercle, effectivement, qui peut être, c'est ça, comme tu dis, à travers des activités, à travers des actions culturelles, à travers tout un tas de choses. L'idée, c'est de recréer du réseau. Voilà.
On a l'occasion, nous, sur Évreux, parce qu'on est plutôt basé sur Évreux, d'avoir une ressourcerie aussi sur Nétreville, des quartiers.
La ressourcerie L'Abri,
c'est exactement ça, tout à fait, la ressourcerie L'Abri, c'est un chantier d'insertion aussi, qui revalorise notamment pas mal de mobilier, mais pas seulement d'ailleurs. Hein. C'est l'occasion aussi d'aller régulièrement faire des tours, soit dans les bacs à vinyle, parce que voilà, il y a toujours des richesses dans ces trucs-là.
Bacs à CD, les DVD.
C'est ça, et toujours. Et puis les bouquins aussi, il y a des collections. Et alors, pour la petite soeur, moi j'étais avec ma gamine qui, pour 1€, partait avec 5 bouquins. Enfin, c'est des trucs, ça pousse à la. Alors, ça pousse à la conso, c'est plutôt pas mal en littérature.
À la consommation, mais aussi à l'ouverture culturelle.
Tout à fait. Et puis, quand on est consommateur, rapidement, on est bien contributeur aussi. C'est-à-dire qu'on fait rentrer une démarche au grand public, vous l'évoquiez en début d'échange, c'est rentrer dans une démarche, en fait. C'est, j'ai tout un tas de choses qui seraient, on va dire, des objets dont je n'ai plus l'utilité, enfin, des objets au sens très large, hein. Comme je disais, textiles, littérature, DVD, enfin, j'ai des objets, je n'en ai plus l'utilité.
On les récupère.
Et ben, ils vont resservir ailleurs. Ils vont resservir ailleurs. Et puis c'est à l'heure où on se pose des questions sur la provenance. Hein, là, ces deux dernières années, il y a eu de beaux questionnements autour de d'où provient ce que je consomme. On continue d'ailleurs à continuer à se poser ce type de questions. On voit notamment une réflexion autour de l'alimentation, d'où vient mon alimentation. Finalement, d'où vient mon objet. On est dans la même démarche.
Ouais,
on
a même pensé. Voilà. Que ce soit pour l'alimentation, le vêtement, les jouets, faut toujours penser d'où ça vient, est-ce qu'on en a vraiment besoin. Et là, tu parlais d'être consommateur, mais encore plus, là, nous, on devient plus des consommateurs, parce que certes, on consomme, mais des choses qui ont déjà été produites. Prix solidaire, on ne va pas s'acheter un téléphone à 1 000 € alors qu'on peut en avoir pas très cher, qui fonctionne encore. Donc oui, c'est vraiment un changement de philosophie. Certes, rester, on va dire, dans la consommation, mais de ce qui est déjà produit et pas surproduire des choses qui existent déjà et que personne n'utilise.
Et puis, c'est avancé, j'ai envie de dire, dans les pratiques aussi des uns et des autres. Aujourd'hui, il existe des réseaux de militants, des réseaux d'activistes ou de gens qui font avancer. C'est bien, c'est nécessaire, mais il faut que ces idées passent au-delà de ces réseaux et que ça devienne
au-delà des pratiques communes. Il faut que, pas tout le monde, mais la plupart des gens changent, on va dire, leur manière de consommer, qui se posent des questions sur comment consommer. Et là, grâce à ça, oui, on peut continuer à changer le monde.
Et puis, on y revient, il y a la notion écologique quand on parle de consommation, de réduction et tout, mais il y a la dimension humaine, et notamment à travers des chantiers d'insertion, c'est recréer du travail au pas de notre porte, quoi, finalement. Là où la grande mode a été aux délocalisations pendant très longtemps pour chercher le travail au moins cher, finalement, là, c'est ramener proche de chez nous, très accessible, et bien aussi des emplois, et des emplois, je dirais, de première marche. Et ça, c'est important dans un parcours professionnel.
Il y a aussi un troisième axe, du coup, comme on reste dans la consommation, on va dire l'accessibilité à moindre coût, on va dire. Donc, pouvoir s'offrir une nouvelle vaisselle à pas très cher, alors qu'aller à IKEA, prendre un peu de grande distribution, tout de suite mettre 40, 50 euros, alors que là, on va avoir de la très belle vaisselle pour beaucoup moins cher. Donc, pas besoin d'acheter du neuf.
Et puis, comme ancien, on trouve aussi des fois des trucs la classe. On peut chercher sa vaisselle kitsch parce qu'on peut trouver sur les trucs. Et là, il y a du style d'un seul coup.
Normalement, on n'a pas la vaisselle de monsieur et madame tout le monde, de IKEA, le truc tout blanc.
C'est ça, c'est ça. Donc, il y a un côté classe des fois dans ce qu'on peut trouver, notamment. Je pense à des ressourceries ou des. Sur les bons, on a aussi le secours populaire, qui font aussi chantier d'insertion, des lieux comme ça. Et honnêtement, ce qu'on y trouve, bon, faut être prêt. Des fois, faut être vraiment prêt. Hein. mais ça permet effectivement d'avoir des trucs différents et évoquer à l'instant une vaisselle un peu classe à pas cher.
Ou même des vêtements uniques, parce qu'on les trouve que là. On va trouver ce t-shirt seulement en cette taille. Ici, on ne retrouvera pas le même ailleurs.
C'est ça, et cet été sur les plages, on aura la classe.
C'est ça.
Merci. Il y a toujours moyen de toute manière d'éviter effectivement de remplir les bennes à déchets. Bon, mais sur le stand, alors t'as pu repérer peut-être des choses avec qui, en fin de compte, on travaille aussi avec des gens qui sont plus dans
la transformation.
Dans la transformation un peu artistique, et en fin de compte, voilà, ça a plus forcément un usage qui va être celui initial, mais en fin de compte, voilà, tu peux toujours transformer, en fin de compte, voilà, ça peut devenir des objets qui restent durables, en fin de compte, hein, qui vont être des objets artistiques ou décorations, et voilà, on essaie aussi de développer des partenariats avec des gens qui de leur côté, eux, s'impliquent dans ces aspects un peu artistiques des détournements d'objets. Ouais.
Et puis, côté classe, d'acheter des objets qui ont déjà une histoire. Parce que tu vas te dire, ah ben j'ai acheté ma vaisselle, ça devait être à quelqu'un d'autre, c'est machin, ben y a
eu plein de bons repas qui sont
arrivés. Ouais, voilà, c'est ça. On sait où des fois raté aussi. Hein.
Ouais, c'est vrai. On n'est pas tous des très bons cuisiniers.
Non, mais c'est acheter une histoire. Et puis, quand j'ai acheté ma vaisselle, je prends l'exemple de la vaisselle parce qu'on l'évoquait tout à l'heure, j'ai acheté ma vaisselle en local sur un chantier d'insertion. Enfin, elle a pris une autre valeur qui n'est pas une valeur marchande, mais qui a une valeur sociale, en fait. L'objet que j'ai acheté ou autre a pris une valeur sociale. Et presque quand j'ai du monde à la maison, bah tiens, ces assiettes-là, là, une ressourcerie de machin,
j'ai trouvé un endroit, les gens sont super sympas, j'ai passé un bon moment, et on repart avec la vaisselle.
Rarement les gens font autant l'article quand ils ont une vaisselle IKEA. Hein. Ils disent juste, tiens, reprends des patates, mais ils disent pas plus.
Personne s'attarde sur la vaisselle toute blanche en mode, ah, elle est belle.
Alors, mais c'est ça.
Si c'est une vaisselle avec un peu de moulure, de la décoration dans le fond, là, on s'attarde.
Exactement.
C'est un exemple parmi tant
d'autres. Ça marche avec tout, c'est ça qui est bien. Merci beaucoup JP et Florian de l'association L'Écho des Pas Perdus, juste à côté avec le projet de chantier d'insertion et la ressourcerie. Merci beaucoup.
Et merci à vous. Merci Radio Principe Actif. Et venez au Festival Contemporain, il y a une super programmation et ça fait longtemps que
il n'y a rien
de
faire
à cause des événements que tout le monde connaît. Et donc, on est bien ici et il faut bien nous rejoindre.
Eh bien, écoute, c'est ça le plan. Vinci, je me retourne vers toi et te propose ce que tu as envie de nous diffuser. Un petit peu de musique, si tu veux bien. Eh bien, super. I'm going to go to the next one. Trio qu'on entendait à l'instant, et ça tombe bien, nous les avons avec nous sur le plateau, car nous sommes toujours en direct en live et en public du festival Contemporain à Mantes-la-Ville, et plus précisément au Parc de la Vallée. Nous sommes avec Machito et Denis. Maxime va peut-être nous rejoindre. Bonjour à vous, messieurs.
Bonsoir.
Alors,
bonjour.
On est pile poil à l'heure où on
peut dire exactement ce qu'on
voit. On pourrait définir le Friki Trio comme un espèce de mélange entre rock teinté jazz avec du cuivre sur la fabrication des morceaux. C'est quoi la recette? C'est quoi l'astuce? C'est quoi la marque de fabrique de Friki Trio? Ah oui, c'était une question. Ah, elle est pas simple, hein, parce que là, je demande tout de suite les savets de fabrication. Oh, je vais commencer par une autre. Ça va, les gars?
Ça va très bien.
Ah, voilà. Vous ouvriez tout à l'heure la première session SN. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce comment? Tout ça, quoi.
C'était super. C'était vraiment... C'était super.
Voilà, ça avait dans les yeux.
Alors, en fait, on a vraiment pas eu beaucoup de temps pour faire la balance. En français, d'ailleurs, on n'a même pas fait de balance avec un son, on n'entendait rien. Et... finalement, on avait un super son sur scène. Donc, merci à tout staff sur la scène.
La gestion retour, notamment, qui nous a fait un super son.
Sur la scène, ils ont bien bossé.
Et j'ai eu bien, merci bien. Et dans la pousse, c'était parfait. Voilà. Parce que quand on est sur scène, on ne sait pas forcément comment ça se passe pour le public. Et c'était très bien. Je sais, moi, ça. À l'écoute, je sens des inspirations rock, des choses un peu groove. Et puis, quand même, un truc qui vient un petit peu une espèce de je sais pas, d'appréhension plus jazz en fait dans la façon de poser les choses. Ma question c'était, mais c'est quoi la recette Freaky Trio quoi pour inventer, créer
c'est donc il y a des thèmes balkans au départ et qu'on réarrange totalement, donc version rock, version après les thèmes la musique d'Europe de l'Est moderne, c'est assez chiadé, donc on essaie, on se fait, on fait des trucs automatiquement, c'est un peu compliqué, on essaie de simplifier quand même, pas spécialement les thèmes, mais au moins les structures des morceaux, mais ça reste quand même des morceaux avec beaucoup de parties différentes.
Oui, c'est ce côté qu'on va retrouver que sur lequel je faisais un petit pont avec éventuellement le jazz sur des parties assez différentes, avec
c'est pas du jazz du tout, c'est juste la musique, c'est la musique compliquée en fait.
Oui, ben ouais, c'est peut-être ça. Alors, c'est peut-être ça la différence. Au début du solo, il y avait quand même des instruments en avant.
Le solo de basse de Maxime qui vient d'arriver.
Ouais.
À part son solo de basse, il y a un petit peu de jazz. Sinon, il n'y a pas de jazz, c'est juste la musique qui est un peu compliquée.
Oui, ben là, il y avait peut-être ce côté-là, effectivement, peut-être une partie différente de ce qu'on entend régulièrement dans des ambiances rock ou autre. Ce côté britannique, justement, d'où vous l'extrayez, d'où vous êtes quoi, passionné de musique des Balkans,
dans cette... J'ai ramené ça,
ouais.
Il y a pas mal d'années. J'ai un peu le Balkan dans votre vie. Et
du coup, j'ai joué avant avec Denis dans un groupe. C'est lui qui m'a appris un peu comment on joue du Balkan à la batterie. Et du coup, dans ce groupe-là, après, on a fait une formule un peu plus réduite. Et du coup, moi, j'ai apporté ce que je savais, et ma culture aussi de... un peu du jazz, tout à l'heure, voilà, j'aimais le jazz. Donc, voilà.
Ça s'appelle une commande, parce que quand on est sur les musiques de l'Est, hein, de manière même très générale, qui jouent assez différemment de celles qu'on a l'habitude ici, on se les réapproprie à la sauce quand même du coin. Comment on y tient et comment on réadapte en fait, comment on s'approprie une culture qui n'est pas sa culture d'origine en fait.
C'est très compliqué parce que pour bien faire la chose, il y a beaucoup de groupes qui font de la musique d'Europe de l'Est, Balkan, mais pour c'est du déjà vu, il y a eu la mode, il y a 30 ans.
Il y a le côté festif qui est souvent gardé, qui est souvent express, côté festif. Enfin, en tout cas, cette représentation festive qu'on garde.
Peut-être pas trop ce côté festif.
Mais voilà, justement, c'est pas ça que vous avez gardé.
Non, on a gardé surtout les thèmes, on les joue un peu comme il faut les jouer. Et pour moi, c'est un peu le. On a gardé le plus important, justement. Pas le côté. On fait de la musique. Ouais,
parce que souvent on regarde ce côté-là quand même. Hein. Il y a plein de groupes d'ailleurs qui font de la musique issue des Balkans, issue de l'Est, en gardant ce côté un peu, même un peu tzigane, quoi, qui fonctionne, et il n'y a aucun jugement de qualité musicale dans ce que je dis. Mais effectivement, en extraire autre chose, c'est plutôt intéressant. C'est quoi? C'est des arrangements à tour de bras?
C'est des
structures qu'on essaie de défoncer.
Totalement réarrangé. Et on transforme les morceaux avec la guitare par exemple, on donne un côté rock, mais en même temps on garde l'esprit des mélodies.
Comme ça, on réarrange en fonction des concerts aussi.
C'est pas réarrange d'un concert à l'autre.
Bah, là, c'était plutôt une grosse scène, etc. Donc, on a fait un truc un peu plus rock. C'est vrai.
On change.
Voilà, des fois, on joue dans un café.
C'est ça. Mais vous allez voir qu'on va y revenir au jazz. Hein, parce que tout à l'heure, je disais, il y avait des solos qui revenaient en avant. Il y a une construction compliquée. Il y a tous ces trucs-là. Et effectivement, c'est ce qui me renvoie de manière la plus noble, hein, quand on dit jazz, mais c'est pas forcément ce qu'on entend dans l'ascenseur quand on monte au 8e. Mais en fait, c'est une approche de la musique en fait, qui est autant de la recherche que du jeu, quoi, non? Enfin, je sens dans ce que tu me dis, en tout cas, Denis, qu'il y a un côté un peu recherche, un peu expérimental en fait, dans la façon de construire.
En fait, il n'y a pas de. Moi, je connais pas trop de groupes qui fassent ça, en fait.
Ouais.
Après, je sais pas si c'est censé fonctionner par rapport au public, parce que c'est quand même compliqué, mais on essaie de justement faire quelque chose quand même d'accessible. Après, ça change souvent, les parties, on ne peut pas danser souvent sur le même...
Après, la musique n'est pas faite que pour danser. Hein.
Ouais, c'est ça.
Donc, on n'est pas obligé de danser à chaque fois.
Après, ça fonctionne quand même un petit peu. Hein.
C'est assez soutenu, ça envoie.
Même en début de festival, ça a marché un peu. Hein.
Le parcours un petit peu de ce petit trio, vous disiez tout à l'heure, Machito et puis Denis, que vous jouiez ensemble sur une autre formation. Maxime, qu'on a moins entendu, tu viens d'où musicalement en particulier?
Moi, je viens du jazz, Machito aussi d'ailleurs, mais moi, à la base, je suis saxophoniste, donc je vais surtout travailler le jazz, puis les musiques de l'Est avec Machito et Denis.
D'accord, et puis c'est comme ça que la sauce finalement prend
tranquille. Ouais, c'est la plus qu'on s'est retrouvé, ouais.
Ah, c'est drôle, quand c'est l'univers de personne et finalement ça devient une base de travail, c'est rigolo quoi, de se dire au bout d'un moment, même si Denis. D'ailleurs, tu l'as ramené à travers quoi? À travers un voyage, à travers des écoutes musicales, à travers quoi?
Depuis que j'ai 20 ans, je suis arrivé dans un.
On a les mobilettes qui tournent autour là.
Depuis que j'ai 20 ans, je suis tombé dans des groupes, des super groupes de musique d'Europe de l'Est par hasard. En fait, j'ai commencé par le tuba. Oui. Je suis tubiste de profession. J'ai commencé tard, à 20 ans. C'est mon cousin qui m'a dit, qui jouait dans des super groupes, qui m'a dit tiens, remplace-moi, mais je ne sais pas souffler dans ton bignou. Hein. Je suis comment faire? T'inquiète, c'est facile. Et j'ai commencé dans des groupes, j'ai commencé avec Sonos Tribal. En fanfare, il y a 20 ans, c'était ça tournait grave, c'était super, avec de très bons musiciens. Ensuite, j'ai fait des fanfares, j'ai joué avec. Je suis parti à Gucci en Europe de l'Est, on a joué. J'ai joué avec Chantel deux fois à Gucci. J'ai rencontré beaucoup de monde, Ibrahim Malouf, tout ça. Des mecs de Serbie, les musiciens.
C'est le voyage et la rencontre aussi qui fait tout dans l'appréhension des choses. C'est le petit bonus culturel, en fait, parce qu'on a beau écouter la musique, d'aller la vivre peut-être sur place ou de rencontrer des gens, c'est peut-être un autre échange, non? D'avoir un échange autre que d'écoute.
Non, c'est différent. Alors, ou bien on est là-bas et à 6 ans, on a tout compris.
Oui, c'est ça.
Ou bien on se met, on relève les morceaux et on bosse.
Voilà. Oui, c'est ça. Bah, pour
moi, on n'a pas eu cette chance-là.
Ouais, c'est le boulot, du coup, c'est le boulot qui a payé. Sur le travail, alors du coup, je sens bien qu'il y a une réappropriation qui est importante, en fait, dans le travail, dans l'écriture musicale et compagnie. Ça ressemble à quoi, une séance de boulot des Freaky Trio? Ça ressemble à quoi? Dans ce qui est racontable, ça ressemble à quoi?
Enfin, c'est une répétition, quoi.
Il n'y en a pas deux qui se passent pareil.
On s'installe. Il y en a qui arrivent avant pour s'installer parce qu'ils ont plus d'instruments que d'autres. En général, c'est dans des salles où moi j'ai ma batterie montée, donc moi j'arrive après. Voilà. Non.
Ça, c'est dans la côté de ceux qu'on a déjà écrit.
Oui. En fait, on a plein de groupes chacun à côté, donc on se voit rarement. En général, on se voit surtout ou bien pour faire des répètes de composition, ce qui est plutôt rare parce qu'en ce moment on n'a pas beaucoup de temps, on est tous très pris. Ou sinon on se voit pour une ou deux répètes avant chaque concert.
D'accord, ouais, c'est la formule.
Dans là, c'est peut-être des fois on réarrange, on fait ça, refait dans les.
On change tout à chaque fois avec mon jeu, parce que je vais tout changer.
Donc c'est du morceau même.
Ce soir, en fait. On remplaçait, normalement c'était Jonas et les Beko qui devaient jouer.
Oui.
Et Jonas s'est cassé le bras, malheureusement, il y a 2 semaines. Donc on a appris qu'on devait le remplacer. Voilà, merci à l'organisation de nous avoir choisi. Et ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas répété. Et donc on a fait 2 répètes là. Et finalement, on ne jouait pas trop longtemps, 45 minutes. Donc ça l'a fait. On a fait un set bien rock'n'roll pour le contemporain. Et ça l'a fait. Tu veux dire un petit mot?
Bonsoir tout le monde, je vous aime.
Ah ben voilà, des messages d'amour en plus, c'est parfait.
Manager du groupe.
Merci, d'accord. Machito, tu l'évoquais à l'instant, la répète arrive, ma batterie est déjà montée là où on répète. Il y a un accompagnement, il y a un soutien, il y a des lieux type salle de diffusion, salle de soutien derrière vous.
Oui, mais oui. Depuis des années à Buchelet, donc là on va changer de salle, mais on va avoir une nouvelle salle de répétition.
D'accord. Et c'est quoi? C'est un accompagnement des salles? C'est un
soutien? Dans la ville depuis 15 ans, quoi. Comme ça, voilà.
Autour du Freaky Trio ou une association plus large?
Avec une autre fanfare où on joue.
D'accord, ok.
Avec Bois Brass Band.
D'accord.
Et sinon, on répète au sax à HR quand on fait des répétitions un peu plus sérieuses ou en tout cas plus professionnels, on va dire, pour le
Ouais, ils sont super sympas au sac, c'est la chair. C'est bien. C'est... On a fait une résidence l'année dernière.
Ouais.
C'était vraiment bien sur scène, hein. C'était super.
Parce que souvent dans l'histoire de la vie d'un groupe, y a aussi le soutien des salles de diffusion ou des salles d'accompagnement qui est nécessaire. Alors le grand public ne le sait pas forcément. Finalement, on va voir un groupe sur scène et puis finalement, comment il répète, comment il est accompagné, comment c'est suivi. Finalement, ce sont des choses qu'on déclare pas sur scène, en fait, en général. Hein, on n'est pas toujours au courant. Et moi, j'aime bien savoir un petit peu ce qui se passe derrière la vie du groupe, quoi, en fait. Comment c'est un réseau qui favorise ou pas, qui aide, ou au contraire, parfois, certains groupes ont des déserts de lieux de répétition et galèrent allègrement. Donc voilà, en tout cas, pour vous, il y a deux salles, en tout cas, sur lesquelles vous faites des répétitions de régulières, et c'est des salles qui vous soutiennent, et notamment à travers aussi un projet d'association, le projet de l'association derrière, qui permet de mettre en énergie les forces vives.
Voilà.
Voilà. C'est ça finalement la vie d'un groupe, hein. C'est du jeu sur scène et puis beaucoup de travail derrière, d'écriture, de répète et puis un peu d'administratif pour être sûr de pouvoir trouver des lieux et du soutien, c'est ça non? C'est ça la recette pour avancer.
Quand on a un groupe pas connu, pas encore très connu, c'est difficile de trouver des dates parce qu'en fait actuellement c'est quand même les organisateurs de festivals, ils regardent vraiment le nombre de vues qu'on a sur YouTube ou sur toutes les plateformes comme ça. Hein. Donc, quand on n'est pas connu, pour percer un peu dans le milieu, c'est pas facile.
Pourquoi la programmation, c'est aller dénicher ce que les autres connaissent pas, normalement?
Comment?
La programmation, normalement, c'est aller dénicher ce que les autres connaissent pas.
Oui, mais je parle de festival.
Oui, c'est ça, comme un temps pour rien, effectivement, ce sont des défricheurs et des dénicheurs.
C'est ça,
effectivement, et oui, tu as raison de le faire, et c'était très sarcastique ce que je disais.
Je parlais des plus gros festivals.
Voilà, les gros festivals, c'est de l'affiche qui fonctionne, avec éventuellement un ou deux en soutien, mais ça reste assez limité. Merci beaucoup à vous, les gars. Moi, vous avez un truc à ajouter d'essentiel, d'exceptionnel, de drôle.
Un concert, jeudi prochain.
Jeudi
prochain. Jeudi à la base de loisirs de Cergy.
D'accord. En extérieur aussi.
Caravane Bazart. Ouais, au bord de l'eau, sur la plage.
Au bord de l'eau.
C'est cool. Super, il faut venir.
C'est
vers 20h30.
Deux fois plus longtemps.
Ouais, ouais.
C'est une heure
et demie. Quoi, ouais.
On va faire plein d'autres choses, plein d'autres morceaux.
Eh ben, cool.
Voilà. C'est un super endroit. Ouais, au bord de l'eau, c'est vraiment bien. Ouais.
Jeudi prochain.
On joue à 20h30.
À 20h30.
Voilà. Ça ouvre à 19h, mais on joue à 20h30.
Eh bien, parfait. J'imagine qu'il y aura d'autres groupes qui joueront.
Non, il y a.
Oui, il faut l'a dit une fois que vous faites
un DJ.
Et un DJ après. Parfait.
Je crois.
Bon, de toute façon, allez les voir, c'est déjà ça. Et puis après, vous verrez si vous avez du bonus dans votre soirée. Merci beaucoup, messieurs, Maxime, Machito et Denis, d'être passés par nos micros. C'était Freaky Trio. Vinci, nous repartons en musique et juste après, il y a Julie qui va nous rejoindre. Thank you.
Thank you.